Chapitre 20. Quincy. Bonjour, commandant Didi Warren, police de Boston. Je vous appelle au sujet du profil que vous avez rédigé à la demande de Charlene Grant. Les meurtres du 21 janvier. Jusqu'ici, au nombre de 2, mais peut-être bientôt 3, ceux qu'à titre personnel j'aimerais bien éviter. Notre taux d'homicide est déjà assez élevé comme ça à Boston, merci. Commandant, la salua sèchement Pierce Quincy, ancien profiler du FBI. J'ai eu ma fille hier soir. Elle m'a informé de votre enquête. Apparemment, vous avez un plan, une histoire de réseaux sociaux. Ça vaudrait le coup d'essayer. J'ai cru comprendre que vous aviez étudié à la fois la première et la deuxième scène de crime. J'ai rédigé le premier rapport à la demande de Jackie Knowles et le second à la demande de Charlene après le meurtre de Jackie. Didi n'y avait pas songé. Désolée, murmura-t-elle, sans trop savoir quoi dire d'autre à son collègue retraité. L'analyse d'une scène de crime est plus facile quand on ne connaissait pas la victime, répondit Quincy avec simplicité. Mon deuxième rapport doit donc être pris avec précaution. Il n'est sans doute pas aussi objectif que le premier. Commençons par le premier meurtre, celui de Providence, décida Didi. Mon impression, après avoir lu votre rapport et parlé avec Juan Griffin, le chargé d'enquête, est que le criminel est doué d'une grande maîtrise de soi, d'excellentes capacités de communication, d'une intelligence supérieure à la moyenne et d'une force certaine dans les mains. Je confirme. Homme ou femme ? Les statistiques plaideraient pour un homme, mais l'absence d'agression sexuelle complique l'analyse. D'instinct, vous diriez quoi ? Rien devant le meurtre de Providence. Mais si je prends en compte celui d'Atlanta, où la victime a été vue pour la dernière fois en compagnie d'une femme, je penche pour une femme. Ça expliquerait pourquoi les deux victimes n'ont pas hésité à ouvrir leurs portes, et aussi le grand nettoyage qui a suivi. C'est vrai que beaucoup de tueurs en série se montrent méticuleux quand il s'agit de stériliser une scène de crime, mais rares sont ceux qui pensent à s'occuper des coussins du canapé.
Les coussins du canapé ?
On aurait dit qu'on venait de les retaper, un geste typiquement féminin.
Retaper ? Comment vous pouvez affirmer une chose pareille ?
Je ne peux pas le faire, pas avec certitude. Mais d'après sa voisine, Jackie Knowles avait pour habitude de jeter les coussins décoratifs à un bout du canapé et de s'asseoir à l'autre. Pourtant, à l'arrivée de la police, ces petits coussins étaient parfaitement positionnés. Et même les coussins d'assises et le dossier avaient été lissés et soigneusement replacés. Comme l'a fait remarquer un enquêteur, on aurait dit que personne ne s'était jamais assis dans ce canapé. Il avait été retapé.
Mais peut-être par Jackie elle-même, contesta Didi.
En remettant l'appartement en ordre au cas où elle rentrerait avec une invitée ce soir-là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vrai. Je ne vous propose qu'une théorie fondée sur des hypothèses, pas des faits.
Oh, au moins vous êtes franc.
Elle eut l'impression que le profiler riait, mais ce fut bref.
Il faut qu'on remue le panier de crabes, reprit-elle d'un seul coup. Il nous reste 2 jours avant le 21 janvier. Et Charlene Grant se promène dans Boston en se cachant de tous les gens qu'elle connaît et en trimballant un 22 semi-auto.
Elle a un pistolet ?
Déclaré.
Ça ne lui servira à rien.
Hypothèse ou fait ?
Les deux. Les deux premières victimes n'ont pas eu un geste de résistance. Si elles ne se sont pas arrachées les ongles en essayant d'écarter les mains qui les étranglaient, qu'est-ce qui fait croire à Charlene qu'elle aura la possibilité de tirer le moindre coup de feu ?
La gorge nouée, Didi n'aimait pas cette image. Peut-être qu'elles ont résisté, en fait. L'assassin leur a lavé les mains, après s'être occupé des coussins, bien sûr.
Randy avait des ongles d'une longueur inhabituelle et parfaitement manucurés. Pas un seul n'était cassé. Plutôt improbable, non ?
Les analyses toxicologiques ?
Pas de drogue.
Est-ce qu'elles ont pu être agressées dans leur sommeil ?
Possible. Mais l'asphyxie aurait dû les réveiller en sursaut et déclencher un réflexe de lutte ou de fuite. Au dire de tous, elles étaient toutes les deux capables de se défendre.
Alors comment expliquez-vous l'absence de blessures de défense ?
Je ne l'explique pas.
Didi soupira de nouveau. Au moins vous êtes franc, répéta-t-elle.
Malheureusement, ça ne nous aide ni l'un ni l'autre. Pas plus que Charlene Grant, le 21. Est-ce qu'il y a eu prise de contact ?
Demanda d'un seul coup Quincy.
Un message adressé à Charlene ? Quelque chose ?
Non.
Inhabituel. Fit-il observer. Très inhabituel même, qu'un récidiviste reproduise un scénario avec une telle précision. La plupart des tueurs parlent de la sensation physique que leur procure le meurtre.
Ça libère dans le cerveau des substances comparables aux endorphines du coureur de fond. En général, le premier meurtre est le fruit d'une impulsion et il génère de l'anxiété. Mais quand les choses se tassent, le meurtrier oublie la peur. Il se souvient du plaisir et veut l'éprouver de nouveau. Le cycle qui s'accomplit avant le meurtre suivant peut prendre un moment, mais au fil du temps, le besoin de cette décharge physiologique qui accompagne chaque meurtre devient sa motivation première et raccourcit le cycle, ce qui induit plus de fébrilité, moins d'organisation, moins de maîtrise. Le tueur peut tenter de lutter contre ce cycle en se tournant vers l'alcool et ou la drogue comme substitut au shoot homicidaire, mais c'est rarement efficace. En revanche, ça aide la police parce que le tueur perd les pédales et multiplie les erreurs. D'après cette logique, ce tueur n'en est encore qu'aux prémices de son évolution, puisqu'il ou elle est capable d'attendre une année entière entre chaque victime, c'est ça ? Pour l'instant, il ne s'agit pas à proprement parler d'un tueur en série. Il faut 3 meurtres. À ce stade, nous avons un récidiviste dont le scénario a un côté presque technique. Plus assassinat rituel que meurtre en série.
Peut-être parce qu'il s'agit d'une femme ? Elle n'est pas motivée par la soif de tuer, mais par autre chose ?
C'est cette autre chose que nous devons identifier. Si nous découvrons le pourquoi, ça nous mènera peut-être au qui.
D'accord, dit Didi en se prenant au jeu. Pourquoi Randy Menck ? Pourquoi Jackie Knowles ? Quel point commun entre elles ?
2 femmes célibataires qui habitent en ville. Même âge. Ayant toutes les deux grandi dans les montagnes blanches du New Hampshire, où elles ont de la famille et des amis en commun. Et en particulier Charlène Grant, dont elles étaient toutes les deux inséparables.
Ce qui conduit Charlène à penser qu'elle sera la prochaine victime. Est-ce que vous en êtes aussi certain ? Peut-être que cette histoire ne concerne que Randy et Jackie, et qu'elle n'a rien à voir avec Charlie ?
C'est possible, reconnut Quincy. Avec seulement 2 meurtres, nous n'avons pas assez de données pour extrapoler de manière pertinente. Le fait que Randy et Jackie se soient connus pourrait encore n'être qu'une pure coïncidence. Elle-même savait qu'elle se connaissait, mais le tueur, non.
Je n'aime pas les coïncidences, dit Didi. Je sais que ça existe, mais ça ne fait pas de moi une convertie.
Dans ce cas, nous sommes 2, approuva Quincy. Alors, posons nos premières hypothèses. Randy et Jackie avaient un point commun qui a conduit à leur assassinat. Bon, à l'âge adulte, ça ne saute pas aux yeux. Elles vivaient dans 2 états différents, à près de 2000 kilomètres l'une de l'autre. Randy habitait un quartier chic de Providence après avoir divorcé d'un mari violent, et elle travaillait comme hôtesse d'accueil dans un centre de bien-être. Jackie habitait la banlieue d'Atlanta. Célibataire, lesbienne, bosseuse compulsive. Pas grand-chose en commun.
Une seconde, intervint Didi. Et le mari violent ? Et si Jackie avait été au courant ? Si elle était intervenue en faveur de son amie et que ça l'avait mise dans le collimateur du bon docteur ?
Perdu. D'après Jackie elle-même, elle n'a eu connaissance des problèmes conjugaux de Randy qu'après l'assassinat de celle-ci. Il semblerait que Randy ne se soit jamais confié à ses amis.
Elle s'était refermée sur elle-même, murmura Didi. C'était le cas de tant de femmes battues.
À l'âge adulte, les 3 amis s'étaient éloignés, reprit Quincy. Autrement dit, pour trouver le point commun entre Randy et Jackie, il faut remonter environ 10 ans en arrière, jusqu'à leur enfance passée dans le même village, dans la même petite école. Et à l'époque, on ne les considérait pas comme un duo, Randy et Jackie, mais comme un trio, Randy, Jackie et Charlie. Apparemment, les gens du village associaient souvent leurs 3 noms en un même surnom. Randy, Jackie, Charlie.
Les 3 mousquetaires.
Tout juste. Et c'est pour ça que je ne donne pas tort à Charlène de se considérer comme la prochaine sur la liste. Au mieux, elle aura une bonne surprise en se réveillant le matin du 22. Au pire...
Espérer le meilleur, prévoir le pire.
Exactement.
D'accord, reprit Didi avec entrain. Disons que le trio tout entier est devenu une cible. Dans ce cas... Pourquoi aujourd'hui ?
Est-ce qu'il n'aurait pas été plus logique d'essayer de les tuer quand elles habitaient le même village, tout en même temps ?
D'ailleurs, pourquoi les tuer une à une ? Et pourquoi le 21 janvier ?
Excellente question, commandant. Tenez-moi au courant quand vous aurez les réponses.
Un assassinat rituel, réfléchit Didi à voix haute. Toute l'approche du criminel repose sur des éléments qui lui sont profondément personnels. La date ? Le procédé, même le ciblage individuel. Peut-être que la cible globale est un trio d'amis, mais par sa méthode, l'assassin fait en sorte que chacune meurt seule.
Intéressant comme remarque.
D'accord. Alors imaginons que l'assassin ait une profonde aversion pour les amitiés indéfectibles. Le premier meurtre s'est produit il y a 2 ans.
soit près de 8 ans après que ces femmes sont parties chacune de leur côté. Pourquoi attendre toutes ces années et ensuite commencer par agresser Randy le 21 janvier ?
« Il y a plusieurs points à considérer, » répondit Quincy. « Premièrement, l'âge. Les trajectoires de ces femmes se sont écartées à 18 ans. Si on imagine que l'assassin les connaissait depuis leur enfance, il est possible qu'ils soient de la même génération. 18 ans est un âge qui marque le passage entre l'adolescence et l'âge adulte. On peut penser que l'assassin avait besoin d'acquérir plus d'expérience avant d'être en capacité de suivre son impulsion.
« Apprentissage, » murmura Didi. Il devait fréquenter divers forums de fans de l'homicide, histoire d'apprendre comment on fait.
Pardon ?
Rien.
18 ans est aussi un âge charnière en matière de santé psychique. De nombreuses pathologies, notamment les troubles maniaco-dépressifs ou la schizophrénie, se manifestent vers cet âge.
Ce qui signifierait que l'agresseur, autrefois normal, serait devenu anormal, et notamment animé d'un besoin irrépressible de tuer toutes les amies inséparables.
Possible. À envisager, je crois. Le point faible de cette théorie, c'est que les scènes de crime font penser à un criminel en pleine possession de ses facultés, un tueur organisé plutôt que l'inverse.
« Mais il a dû se produire quelque chose, » murmura Didi. « Si on part du principe que les trois amis sont la cible, il s'est produit quelque chose qui a conduit le criminel à se lancer dans ce rituel. »
« Peut-être que ça s'est produit un 21 janvier. »
« Est-ce que ces femmes auraient vu quelque chose, auraient été témoins de quelque chose ?» s'interrogea Didi. « Peut-être que, adultes, retournées dans leur village pour des vacances, elles sont tombées sur un accident de voiture compromettant, elles ont assisté à un règlement de compte de la mafia, je ne sais pas, n'importe quoi. »
La question a été posée à de nombreuses reprises. Charlène a toujours répondu par la négative.
« D'accord, » dit Didi en continuant à réfléchir. « Trois amis inséparables. » Qui peut haïr trois filles ? Alors la réponse lui vint, si évidente qu'elle n'en revenait pas de ne pas y avoir pensé plus tôt. « La quatrième, » dit-elle dans un soupir. « Celle qui n'a jamais été jugée digne de faire partie de la bande. »«
Prends garde à la fureur d'une femme outragée, » récita Quincy. « C'est une bonne théorie. En fait, je regrette de ne jamais avoir eu l'idée de poser la question. »
Donc je recontacte Charlène. Je lui demande si elle a eu d'autres amis d'enfance.
Non, rectifia aussitôt Quincy. Ne l'interrogez pas sur ses amis, mais sur celles qui n'ont jamais été ses amies. La solitaire de la classe. La fille qui était toujours toute seule à la cantine, l'exclue. Celle qui les regardait de l'extérieur.
Mais vous disiez que l'assassin possédait d'excellentes capacités de communication. Quand est-ce que cette solitaire les aurait acquises ?
Je me trompais peut-être sur ce point. Peut-être que Randy et Jackie lui ont ouvert leur porte à cause d'un reste de pitié pour une ancienne camarade de classe, plutôt que pour accueillir à bras ouverts une inconnue charismatique.
D'accord, d'accord. Je vais faire ça. Mais même si Charlène se souvient d'un nom, il ne me restera que 48 heures pour retrouver une inconnue dans une affaire qui ne m'a même pas encore été officiellement confiée. Vu la date, peut-être que cette fameuse fille se trouve déjà à Boston, sur la piste de Charlène.
Vous voudriez une stratégie plus volontariste ?
Je voudrais attirer le tueur jusqu'à nous. J'envisage de créer une page Facebook pour commémorer la date anniversaire des assassinats, rendre hommage aux victimes. Je voudrais jeter un peu d'huile sur le feu, rentrer dans la tête du tueur. Comment faire ? Pas de réponse à l'autre bout du fil. Elle devina que Quincy réfléchissait.
« Je regrette de ne pas pouvoir venir à Boston, » dit-il. « Je me sentirais moins coupable, je crois, si j'étais là. »
Hé, ne le prenez pas mal, monsieur l'ancien expert du FBI, mais on n'est pas qu'une bande de bras cassés à Boston. Tous les ans, on essaie de sauver la vie d'au moins une personne. Cette année, ça me plairait que ce soit Charlène Grant.
Je m'inquiète pour elle, répondit Quincy sans se départir de son calme.
Il y a de quoi, dit brutalement Didi. J'ai passé 1 heure avec elle. Il faudrait qu'elle prenne 10 kilos, qu'elle dorme 10 jours d'affilée et qu'elle renonce à son pistolet. Mais à part ça, si vous ne pouvez pas venir,
ma femme et moi, on vient d'adopter.
Vous avez un bébé ? Didi n'en revenait pas. Elle n'avait pas eu l'occasion de voir de photos de l'ancien profiler qui lui aurait indiqué son âge, mais dans la mesure où sa fille était une policière aguerrie et elle-même à la tête d'une famille...
« Pas un bébé. Nous sommes beaucoup trop vieux pour ça, » répondit-il avec humour, comme s'il lisait dans ses pensées. « Une petite fille de 10 ans que nous avons d'abord hébergée comme famille d'accueil.
Nous l'aimons profondément, et avec beaucoup de chance, nous espérons qu'un jour elle pourra sentir cet amour. Mais elle n'en est pas encore là. Ça viendra. Il y a du potentiel. Ma femme a aussi travaillé dans les forces de l'ordre. Nous connaissons les deux faces du problème, nous savons à quoi nous attendre. Quand j'ai appris l'assassinat de Jackie Knowles, c'était bien d'avoir de nouveau un enfant à la maison. De garder à l'esprit les promesses de l'avenir, plutôt que de ressasser des regrets. Didi ne répondit pas. Le discours de Quincy lui rappelait tout ce qu'elle aimait dans le fait de rentrer retrouver Jack. Au début, elle avait craint qu'un bébé ne réduise sa capacité à faire son travail. Et peut-être bien qu'en effet, Jack réduisait son temps de travail, mais il lui apportait aussi un équilibre. Les enfants, l'espoir de lendemain meilleur, c'était la vraie raison d'être d'un enquêteur de la police criminelle. On prend les coups pour qu'il ne tombe pas sur son enfant. On travaille jusqu'à pas d'heure, comme son équipe l'avait fait la veille, pour que d'autres enfants puissent se sentir en sécurité. « La quatrième amie, » dit Quincy. « Pardon ? » ?»« C'est ce qu'il vous faut. Si on suit votre raisonnement, il faut que vous inventiez une quatrième amie fictive. Une nouvelle cible qui détournera l'attention de votre tueur. »
Didi, perplexe, retourna la question dans sa tête.
Comment ? Si on part du principe que le tueur connaît le trio depuis l'enfance, il saura que c'est du bidon ?
Il faut que vous soyez la quatrième amie.
Plaît-il ?
La personne qui crée la page Facebook. Présentez-vous comme une personne qui a toute légitimité pour rendre hommage à Jackie et Randy. Vous pourriez, par exemple, les avoir rencontrés à l'université. D'abord Jackie, puis Randy et Charlie. Vous vous retrouviez toutes à Boston pour passer du temps ensemble. Vous les aimiez, vous les pleurez. Et vous vous êtes donné pour mission d'entretenir leur mémoire. Si votre théorie est la bonne et que la tueuse est une inadaptée sociale, ça suffira à l'exaspérer. Elle assassine Jackie et Randy pour se les approprier. Et voilà que dans la mort, vous les reprenez. Vous revendiquez leur mémoire. Je dirais vulgairement que ça devrait la faire chier.
« Ça me botte, » dit Didi. « Tuer est une façon de prendre le pouvoir. Donc il faut remettre en cause cette équation en provoquant délibérément la tueuse. » En menaçant son autorité. Ce n'est plus elle qui est aux commandes, c'est vous. En fait, vous êtes la meilleure amie que Jackie et Randy aient jamais eue, parce que grâce à vous, elles vivront éternellement. Votre amour, votre pouvoir surpasse les siens.
Sans compter que j'ai de plus jolies chaussures, ajouta Didi. Les femmes ne supportent pas ça.
Quincy eut un petit rire.
On dirait que vous êtes sur la bonne voie.
Merci, dit sincèrement Didi. Cette conversation m'a beaucoup apporté. Et après un temps, je peux vous poser une dernière question ?
Je vous en prie.
Est-ce que ça pourrait être Charlène ? Elle se présente comme la troisième victime, mais si ce n'était qu'une ruse ? Si elle était l'assassin et que c'était sa façon de détourner les soupçons ?
Nouveau silence au bout du fil.
Je ne sais pas, répondit finalement Quincy.
Compliqué comme méthode pour tuer impunément. Mais il y a une certitude. Vous aurez la réponse le 22.